Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce cinquième podcast consacré uniquement aux questions que vous nous avez envoyées par courriel, par Facebook, mais surtout via YouTube et Dailymotion. Alors aujourd'hui, bien sûr, toute l'équipe est là, moi-même Robin, nous avons aussi Julien F et Monsieur B, salut à vous.
Salut Robin.
Voilà, là donc vous savez, Rétrovision, c'est une émission qui va droit au but. On ne va pas passer par quatre chemins, on va commencer tout de suite avec la première question de Baramount. Est-il possible d'intégrer des musiques de Cracktro lors des prochaines émissions? Alors oui, d'ailleurs c'est quelque chose dont j'avais pensé, il va y avoir des Cracktro pour les prochaines vidéos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas les Cracktro?
Alors les Cracktro, ce sont les petites séquences que vous voyez souvent sur les jeux micro. Okay. Au démarrage, quand un groupe de hackers craquait le jeu.
Ouais.
Il y a toujours une petite séquence avec souvent le trainer, une petite présentation comme ça, accompagnée d'une musique.
Exact. Puis c'est vrai que ça rappelle beaucoup de souvenirs à tous ceux qui ont eu des Atari ST et des Amiga à l'époque, l'époque de l'âge d'or du jeu vidéo.
Après, reste à savoir quel moment de l'émission mettre ça.
Voilà, tout à fait. J'ai ma petite idée là-dessus, mais je vous laisse la surprise. On continue les questions avec... alors, c'est une question de CDCST57. C'est vraiment pas facile à dire, mais en tout cas, on le salue. Première question, c'est jouez-vous uniquement sur émulateur? Sinon, quelle console possédez-vous?
Bon, bah alors non, on joue pas que sur émulateur. La plupart du temps, quand on joue sur émulateur, c'est par raccourci, parce que déjà, premièrement, pour faire les captures de vidéo, pour que ça soit plus simple, ou parce qu'il y en a qu'on peut pas faire autrement pour avoir une qualité d'image satisfaisante, ou simplement parce que voilà, on est en bande de copains, on est sur vidéoprojecteur, on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête à configurer tout un tas de machines pour pouvoir avoir une image potable sur vidéoprojecteur, donc on passe par émulateur.
D'accord.
Non, tout simplement parce qu'on ne possède pas forcément tous les jeux, donc si on veut tester
aussi
un jeu, on passe par l'émulateur, tout simplement.
Voilà. Oui, exactement. Moi, ce qui me concerne, c'est aussi l'émulateur, parce que c'est plus pratique pour moi pour enregistrer. À noter que j'utilise par contre les vraies manettes d'origine, parce que j'ai des boîtiers qui permettent de brancher carrément une manette PC Engine sur un petit boîtier. Et après, c'est relié en USB directement sur l'ordinateur, et ça permet de jouer vraiment avec la vraie manette et de configurer les boutons tels qu'ils étaient sur la machine.
Oui, voilà. J'ai la même chose, mais pour la 64 et puis la Super Nintendo.
Voilà, c'était pour le...
Un boîtier par manette, ça en fait un sacré paquet quand même, hein. Tu m'étonnes.
C'est ça, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver un boîtier universel avec des petits commutateurs qui te permettent de configurer exactement la manette que tu veux. Mais ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, je sais que ça existe. Mais j'en ai une et puis ça fonctionne super bien. Une autre question, pourquoi Rétrovision n'est pas en HD? Ça, c'est une bonne question.
Parce que les consoles de l'époque n'étaient pas en HD et qu'il va y avoir un décalage entre certains éléments de l'image qui vont être en HD, notamment les bandeaux, les choses comme ça, qu'on pourra faire à la bonne résolution parce que c'est quelque chose qu'on aura créé en HD. Mais l'image derrière, elle, comme elle est déjà multipliée par rapport à un jeu de Game Boy, par exemple, qui est en je ne sais plus combien de résolutions, pour atteindre déjà...
160 par 144.
Voilà, donc on augmente énormément. Ouais,
on multiplie par 4 déjà pour avoir une image en 480.
Mais oui.
Sachant que la machine rétro, si on peut dire, qu'on pourrait parler, c'est la Dreamcast, qui a une résolution de 640 par 480. Il n'y a aucun intérêt à avoir l'émission en HD.
C'est clair.
Voilà, c'est ça. Donc surtout que Rétrovision présente plusieurs jeux sur plusieurs machines, donc avec des résolutions différentes. C'est aussi ça qui était...
Voilà, si on passe d'un jeu Atari 2600 à un jeu Dreamcast, on verra quand même une sacrée différence.
Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser, là.
Voilà. Êtes-vous partenaire, ami avec MO5? La réponse est oui, et depuis le début. À quand les prochains podcasts? Est-ce qu'il va y en avoir plus régulièrement?
Débat en podcast.
Ouais, débat, bon, on va essayer. On va essayer en tout cas.
Oui, c'est clair.
De toute façon, il y a sûrement de quoi faire, il faut trouver les sujets. Justement, on en parlait avec Julien il n'y a pas longtemps. On pourrait lancer un sujet du style est-ce que le rétro est devenu uniquement une pompe à fric?
Ouais.
Par exemple.
Voilà, pourquoi pas.
Malheureusement, constaté ces derniers temps, tout se monnaie, il y a soit prix d'or et puis tout le monde rentre là-dedans. On voit beaucoup le développement des éditions de livres consacrés au sujet, sans compter le prix du matériel ou des jeux assez anciens. C'est vraiment devenu un gros business. Hein.
Oui, c'est la folie.
D'accord. Toujours de la même personne, une question intéressante. Combien de temps passez-vous par mois à jouer aux jeux que vous testez dans Rétrovision?
Jusqu'à ce qu'on le finisse.
D'accord.
C'est très variable dans le sens où il y a des jeux que nous connaissons parfaitement. Donc ça, même pas besoin d'y jouer, on peut en parler, c'est pas un souci. Et des jeux qu'on découvre sur le tas, donc là, on est bien obligé quand même de les faire.
Voilà.
Pour les connaître et pour pouvoir en parler. Donc c'est très très variable, hein. Il n'y a pas de données là-dessus.
D'accord, ok. Bon, moi, ce qui me concerne, c'est 30 minutes par jour, j'ai fait le calcul. Ça fait 3,5 heures par semaine, ce qui donne 14 heures par mois. C'est en dessous de la moyenne nationale étant de 5h45. C'est toujours bon à savoir quand même, hein. Donc voilà, c'était pour la petite histoire là. Des fois, il y en a qui ont un petit peu moins le temps, mais bon. Finissez-vous toujours les jeux que vous avez commencés?
Non. Alors,
Non, c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Non, pas forcément,
évident.
Non, il y a des jeux où tu peux être déçu pendant que tu es en train de le faire, et puis tu t'aperçois qu'en fait, le jeu, bah, il est long, il devient inintéressant, et bon, bah, tu laisses tomber, et puis tu passes à un autre.
Ouais, alors moi... Même des jeux dont on parle qui sont assez répétitifs, je prends par exemple un jeu de plateforme, bon, c'est basique, c'est toujours la même chose, donc pas besoin de le faire complètement pour pouvoir en parler.
C'est ça, moi le plus frustrant, ce qui me concerne, c'est généralement quand je fais des... Ça m'arrive très rarement, mais des jeux sur PC, même en utilisant DOSBox, qui se mettent à planter d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, à cause de...
Il y a ça aussi.
Ouais, c'est un petit peu frustrant. Ça arrive très rarement, je dirais, sur un jeu sur 10 à peu près en moyenne, mais c'est quand même assez frustrant du jeu qui plante, le fameux écran noir de DOSBox. Mais enfin bon, on essaye de trouver une autre version, puis on recommence depuis le début. Jouez-vous beaucoup aux jeux récents? Donc évidemment, ce qui me concerne, pas du tout. Je sais pas pour vous, mais pour moi, non.
Ça dépend ce que tu appelles récent. Si, je joue un petit peu à des jeux de Wii, mais c'est la seule console... On peut même pas dire next-gen, parce que maintenant, c'est celle d'avant.
C'est vieux.
Voilà, c'est vieux. Mais ouais. Voilà, j'ai la 360 et la PS3. Je crois que ça va faire 3-4 ans qu'elle n'a pas été allumée.
Ah, d'accord.
Ouais,
d'accord.
Mais c'est pareil, il faut vraiment avoir un jeu qui sort du lot pour que je m'y intéresse. Mais c'est vrai que maintenant, les productions actuelles ne m'intéressent pas.
Ouais, voilà. Pareil.
Et possédez-vous une PS4 et une PS1? Donc, pour moi, ce qui me concerne, vous savez la réponse. Et pour vous?
Bah, c'est pareil pour nous. Hein.
D'accord, super.
Ouais.
Et puis c'est pas prêt d'arriver. Hein.
Non, c'est clair.
Ça m'intéresse pas du tout.
Bon, alors on continue. Nouvelle question cette fois-ci de Bloud, Alone in the Past. Alors, quel micro utilises-tu et comment est-ce que vous vous y prenez pour capturer les jeux et faire les commentaires? Très bonne question. Hein. Alors pour le micro, bah, c'est un micro tout simple. C'est un micro dynamique qui est branché sur une petite table de mixage qui elle-même est branchée en ligne avec un 2 RCA sur mon ordinateur directement. Donc j'utilise pas de micro USB parce que bon, pour l'instant j'en vois pas trop l'utilité, puis ça coûte un petit peu cher là, puis j'ai pas envie d'acheter de la merde, donc je préfère si je devais en acheter un, ça serait un peu plus cher, mais là pour l'instant tout va bien. Et comment on s'y prend pour capturer les jeux? Comment est-ce que vous vous y prenez, vous, pour capturer?
Comme on le disait tout à l'heure, principalement par les émulateurs.
Ok.
Donc pour ma part, j'utilise un logiciel de capture externe, donc comme toi Robin, Fraps.
Ok.
Ou ça dépend, Bandicam, ça dépend aussi, parce que Fraps ne capture pas forcément tous les émulateurs.
Ok.
Bon, il y a certains émulateurs qui proposent déjà en natif de pouvoir capturer des vidéos.
Oui, c'est vrai.
Le problème, c'est qu'on se retrouve des fois au final avec des vidéos qui sont de résolution, de fréquence d'image ou de son différentes d'un émulateur à un autre.
Exact.
Donc utiliser un programme externe permet d'avoir toujours au moins au niveau du nombre d'images et du son, quelque chose de constant qui simplifiera le montage par la suite.
D'accord.
Mais il arrive dans de rares cas quand même que je passe par la vraie machine branchée sur une platine enregistreur DVD.
Ok.
Comme ce fut le cas quand j'avais fait la chronique de Sunset Riders, parce que ce jeu-là, il y a un effet assez spécial sur l'écran titre qui n'est émulé par aucun émulateur.
Intéressant.
Ça, je suis passé par la platine externe et le reste, je l'ai fait en émulateur. Et j'ai quand même réussi au niveau du montage à faire avec un peu de traitement vidéo, est-ce qu'on ne voit pas la différence?
D'accord, voilà, c'était la petite question de Bloud, que je salue au passage, de Alone in the Past. On continue dans la joie et la bonne humeur avec Fredo L. d'Abandonware Vidéo, que nous saluons au passage. Alors lui, c'est sensiblement la même question. Ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir comment est fait techniquement l'émission, savoir le logiciel utilisé pour faire le générique, ainsi que le montage vidéo, savoir comment sont capturées les images des jeux. Voilà, donc on peut être les logiciels utilisés, moi ce qui me concerne c'est Vegas. Je pense que c'est parce que j'ai pas trop le temps de me prendre la tête sur des logiciels trop complexes, donc pour moi il est à ma portée et puis c'est suffisant pour ce que je fais. Donc pour vous, je sais pas quel matos vous utilisez.
Nous, c'est première. Hein.
Pour le première. Montage final, oui, c'est première. Donc,
ouais, c'est première.
Après, je t'avouerai, Robin, que moi, le logiciel, contrairement à Julien, je n'ai pas appris à l'utiliser. Donc, j'y vais petit à petit. J'apprends au fur et à mesure que je fais les montages. De toute façon, on voit, j'ai, sur les dernières chroniques, fait des petits effets d'incrustation. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Sinon, après, pour une fois que les captures ont été faites, je refais des retouches vidéo par VirtualDub quand je dois agrandir la résolution. Sur mon PC, a des petits problèmes avec la gestion du fichier AVI, donc je suis obligé de le convertir par un logiciel en fichier MOVE pour que ça passe bien.
D'accord.
Voilà techniquement les logiciels utilisés.
D'accord, ok. Ouais, sinon, il y avait une autre question toujours de Fredwell. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Debug Mode sur No Life, mais j'aimerais quelque chose d'équivalent pour Retrovision, qui permettrait de mieux comprendre tous les aspects de sa réalisation. Pourquoi pas, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais est-ce que ça va être réalisable? Est-ce qu'on va avoir le temps, tout ça, de se synchroniser? Je ne sais pas, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez.
Je ne vois pas vraiment comment on pourra réaliser ça. Donc, on n'en a jamais parlé, c'est vrai, mais il faudra que je regarde l'émission dont il parle pour voir exactement de ce qu'il a en tête.
Donc je dirais en réflexion, on va dire ça.
Oui, on va dire ça, oui.
Nouvelle question, cette fois-ci de Johan alias Mortal Shang, qui n'aime pas trop l'Atari ST, mais c'est pas grave, on le salue au passage, on l'aime bien. Alors c'est très simple pour moi, des dossiers matériels jeux spéciaux sur l'Amiga et la Neo Geo, plus une spéciale Mortal Kombat Trilogy, les derniers jusqu'à l'Ultimate, avant la 3D avec MK4, et Shadow of the Beast Trilogy sur Amiga en attendant le remake Ultra HD sur PS4. En ce qui concerne Shadow of the Beast, la trilogie, bah oui, on a déjà chroniqué le 2 et le 3. Je me suis rendu compte que le 1 n'était pas fait et ce sera fait pour la saison 8. D'ailleurs, j'ai déjà fait les captures pour Shadow of the Beast 1 sur Amiga et PC Engine. Donc, ça va être présenté très prochainement. Sinon, pour le Mortal Kombat, c'est pas quelque chose que je suis très familier avec. Je sais pas si vous avez prévu de faire quelque chose sur Mortal Kombat.
Moi, ça me dérange pas. Oui, j'étais fan à l'époque, surtout du 3 à sa sortie, parce que je l'avais testé en arcade avant qu'il sorte justement sur version console. J'avais un bon souvenir, mais enfin, de là à faire une émission spéciale Mortal Kombat, je vais me sentir un peu seul.
D'autant que Mortal Kombat, c'est pas franchement mon truc. Donc là, je te laisse le bébé entre les pattes.
Hein. Ça, on fera peut-être un petit quelque chose, mais pas vraiment.
Un petit dossier pendant une émission, à la rigueur.
Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, à part le premier que j'ai découvert à l'époque de sa sortie en arcade, je me souviens, c'était dans un petit café à Biarritz, sur le bord de la plage. Mais à part de ça, non, j'ai pas vraiment accroché sur Mortal Kombat. Mais on va quand même en parler un petit peu. Ça, c'est promis, il n'y a pas de problème. Sinon, quoi d'autre encore? Toujours de Johan. J'aimerais aussi qu'à chaque épisode, une rubrique arcade insert coin avec un test de jeu d'arcade des années folles où on a tous claqué des tonnes de pièces de 5 ou 10 francs.
Bah, je pense qu'on a quand même assez souvent des tests de jeux d'arcade sans forcément y consacrer une rubrique spécifique.
Voilà, c'est ça. Ouais, il va y avoir... Non, mais il y aura toujours... Ne t'inquiète pas, Johan, il y aura toujours des tests d'arcade de l'âge d'or et il n'y a pas de problème.
C'est vrai que j'ai remarqué cette année, les gens ont quand même fait remarquer qu'on n'avait pas beaucoup de chroniques sur les jeux, que ce soit Atari ST ou Amiga. Juste pour rappeler que sur les 7 précédentes émissions, parce qu'on a fait un inventaire de tous les jeux dont on a parlé dans l'émission, faut quand même dire que l'Amiga, l'Atari ST et l'arcade sont les 3 supports dont on a le plus parlé. Donc cette année, on a quand même privilégié les machines dont on n'avait jamais parlé, que ce soit la NES, la Wonder Swan, toutes ces machines-là. Donc on a voulu faire quelque chose d'un peu plus éclectique.
C'est vrai.
Donc, forcément, il y a un peu moins de micro, un peu moins d'arcade, mais bon, il y en aura toujours un peu.
Oui, c'est ça.
On va rester à peu près sur cette main line la prochaine saison.
Non, mais il va y en avoir d'autres, je vous rassure. J'ai préparé quelques tests. Là. Voilà, on le dit à personne, hein, c'est bon.
Personnellement, je suis pas un joueur de micro, j'ai toujours été un joueur console, donc c'est vrai que c'est pas mon truc. Je vais essayer de m'attarder un peu plus là-dessus, mais bon.
Oui, il va y en avoir, vous inquiétez pas. Ensuite, question de Julien34. Julien34 de Dailymotion, que l'on salue aussi au passage. Lui, il a pas mal de questions aussi. Voici mes questions. Comment se passe la répartition du travail entre vous pour la réalisation de Retrovision? Comment choisissez-vous les jeux abordés dans les émissions? Alors, c'est... Oui, bonne question aussi. Bah, alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'enregistre les voix. J'enregistre les textes de Julien et de Monsieur B. Et moi, je leur envoie les MP3. Eux font le montage avec la vidéo qu'ils ont capturée. Puis, ils me la renvoient. Et puis, moi, je fais le montage final sur Vegas. Et j'incorpore aussi des tests que j'ai faits, s'il y en a.
Ouais, bah, de toute façon, au niveau de l'émission, au niveau des choix des jeux, bah, de toute façon, c'est selon le feeling. Hein. Voilà. On a eu pas mal de vécu, donc on connaît des jeux qui sont intéressants à aborder, mm-hmm. ou pas. Et, donc, on fait toujours la phase d'écriture. Le temps qu'on t'envoie les textes que tu enregistres la voix, nous, on fait les captures. Une fois qu'on a réceptionné tout ça, on fait le montage et puis on te redonne tout. Et,
d'accord.
Comme ça, pour la répartition des dossiers, quasiment tout le temps, je m'occupe du texte. Julien, lui, s'occupe la plupart du temps du montage et parfois des captures. Ça dépend de des fois. Des fois, je fais les captures, des fois,
ouais,
chez lui.
Ça dépend si ça plante pas à la maison.
Oui, pas aussi. Toujours. C'est ça, il y a aussi les contraintes techniques, ça. C'est pas toujours...
Non, et puis en plus de ça, même pour filmer, nous, on avait investi, nous, dans des appareils qui permettent de filmer avec un rendu cinématographique, mais qui n'est pas du tout adapté quand on veut filmer... une console comme on fait, donc c'est pour ça que l'image, en fait, c'est pas au point.
D'accord. Malheureusement. Sinon, toujours de Julien 34, c'est la dernière question avant la pause. Comment choisissez-vous les jeux abordés dans les émissions? Ça, c'est une bonne question, ça.
Comme je l'ai dit, c'est au feeling, c'est en fonction de l'expérience. Donc, voilà. La plupart du temps, des jeux que nous connaissons bien, dont on a envie de parler. Mmh. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait le tour, on va commencer un peu à piocher à droite à gauche, à prendre soit des jeux au hasard, des jeux qui nous intéressaient oui. déjà à l'époque.
Bon, c'est déjà le cas, on prend déjà des jeux qu'on ne connaissait pas forcément à l'époque.
Après, ça dépend du thème, si on fait des émissions spéciales avec un thème précis, bon là, on n'a pas forcément des jeux auxquels on a joué à l'époque.
Comme Master of Darkness, tu connaissais pas trop Master of Darkness et pourtant tu l'as...
C'est comme ça que tu l'as je le connaissais parce que c'était un clone de Castlevania.
Voilà.
Mais j'avais pas fait le jeu dans son, intégralité, mais fait comme je l'avais fait pour l'émission d'Halloween.
Voilà.
C'est ça. En parlant d'Halloween, on choisit aussi nos jeux en fonction des saisons aussi des fois. Et oui, parce que quand c'est Noël ou c'est le spécial Noël, quand c'est les fêtes d'Halloween, bon, on choisit plutôt des jeux qui ont un rapport avec ce thème. Des fois, ça m'arrive d'aller dans un restaurant mexicain, puis de manger une tacos, puis de me dire tiens, je me ferais bien un jeu spécial western. L'inspiration vient aussi de partout autour de nous. Hein. Voilà, c'était donc les questions de Julien 34. On va faire une petite pause musicale et on va rester dans la démo scène puisqu'on parlait de Cracktro. Une musique qui a été extraite d'une démo qui s'appelle Arte du groupe Sanity. L'artiste, c'est Moby Frédéric Moteux. Ça s'appelle Living Insanity et c'est remixé par Deadly Cookie. C'est sorti en 1993 sur Amiga. Voilà, c'était Moby Living Sanity remixé par Deadly Cookie. On reprend les questions avec toujours Julien 34, qui en avait d'autres d'ailleurs. Pour vous, où commence le rétro et où s'arrête-t-il?
Vaste question.
Tu m'étonnes.
Ouais, là.
Où il commence? Bah, au tout début. Hein.
Oui, voilà, c'est clair.
Simplement, après, je pense que où il s'arrête, tout dépend des personnes.
Moi, c'est ça. Bon, oui.
Pour beaucoup, je pense que ça s'arrête, on va dire, pour tout ce qui est console et jeux avant les années 2000. Mmh. Voir certains mais qui commencent à considérer la PlayStation 2 comme rétro, bon, c'est pas trop mon cas.
Ouais, bah, c'est ça, PS1, Dreamcast.
Voilà. Bah, personnellement, moi, ma vision du rétro gaming, ce serait plutôt le genre de machine ou de jeu auquel on avait joué il y a pas mal d'années, puis qu'on a un peu oublié ou mis de côté et par une occasion, on retombe dessus, on les redécouvre. Faut toujours que ça fasse appel à nos souvenirs.
D'accord.
On a eu le cas il n'y a pas longtemps avec un gars qu'on a rencontré avec Julien. Okay. Il était passé un soir chez lui et en regardant la collection de Julien, il avait bloqué sur un petit jeu électronique des Tortues Ninja. Il a fait « Ah non, ça je l'avais quand j'étais gamin, je m'en souviens !» Et ça, c'est techniquement pour moi ce qui représente le mule rétro, c'est vraiment les machines qu'on redécouvre.
Ah bah ouais, ça, effectivement.
Voilà. Pour moi, ça c'est le véritable rétro. Après, c'est ma vision personnelle, je ne sais pas pour Julien.
Mais... Si, non, mais... Je pense que voilà bon après c'est vrai aussi les gens qui ont passé beaucoup de temps sur une PS2 en 2002 par exemple ça va faire 12 ans en 12 ans faut remettre les choses à leur contexte ça veut dire que dans les années 2000 on parle d'un jeu qui aurait 12 ans donc un jeu de 88 c'est sûr que ça aurait été du rétro quand même.
Exact.
C'est sûr, oui, si on parle en nombre d'années, t'as l'impression que ça fait vieux, mais comme maintenant ça reste vraiment ancré dans l'esprit des gens, on n'a plus cette tendance à oublier comme avant.
Non, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils font. En fait, pour eux, voilà, ça dépend après. Il y en a qui, pour eux, le rétro, c'est de la 2D, mais de la 2D, pas de la 2,5, hein, de la vraie 2D. Hein. Ensuite, si c'est une question de capacité de machine. Bon, bah, c'est sûr, il faut que ça s'arrête avant au niveau de la PlayStation 1. Si c'est une question d'âge, bah là, c'est ce qu'on veut en fait, parce que dépasser déjà 6 ans, déjà la génération de la console, elle est déjà dépassée. Hein.
Mmh, exact.
Pour aller dire qu'on doit laisser 2 générations.
Voilà, donc 2 générations, c'est 12 ans. Donc bon, admettons, oui, PS2, bon, ça peut être encore considéré comme du rétro.
J'aurais plus tendance à considérer une Xbox ou une GameCube comme rétro par rapport à PlayStation 2 qui a eu un gros succès, qui a été exploité quand même beaucoup plus longtemps.
Pourtant, elle est sortie après, tu vois. Là, c'est la PS2 qui est sortie. La PS2 est sortie avant la GameCube et avant la Xbox.
Voilà, mais bon, elle a continué d'être produite et avoir des jeux beaucoup plus longtemps que les deux autres.
La Xbox avec.
Ouais, c'est vrai. Non, ça s'arrête. Bah, de toute façon, comme la Xbox 360 est sortie avant la Wii, la PS3, je pense qu'ils ont fait quand même assez rapidement la bascule entre la Xbox et la 360.
C'est possible, ouais, c'est possible. Enfin, oui, sur le GameCube, c'est vrai aussi qu'on pourrait considérer que ça comme du rétro, mais c'est toujours pareil. Après, il n'y a plus de limite dans ce cas-là.
Voilà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de limite précise, donc c'est en fonction de chacun.
On sent que c'est une vaste question quand même. Oh, oui. Là, j'en ai une plus rapide, toujours de Julien 34. Alors, s'il devait nous laisser seuls sur une île déserte avec un micro, ordinateur et une console, lesquels prendriez-vous?
Alors, déjà, sur une île déserte avec une console, je sais pas où tu vas la brancher.
Non, mais admettons qu'il y ait de l'électricité, hein. Ok.
Elle est plus si déserte que ça.
Bon, alors moi, ce serait évidemment l'Atari ST et la Master System. Là, je serais heureux. Et vous?
Ouh. Personnellement, question micro, bon, j'en ai pas eu à l'époque où ça n'est pas encore du succès, mais je dirais, pour faire un peu mon intéressant, un CPC. J'avais passé quand même pas mal de soirées chez un pote qui en avait un, donc ça, j'ai le bon souvenir à l'époque, même si quelques années après, chez Julien, justement, j'avais découvert l'Atari ST. Mais vraiment, le souvenir d'époque, c'était l'Amstrad CPC, donc, avec le gros chargement en cassette, parce que c'est un 464, la demi-heure à attendre, donc ça fait quand même des souvenirs assez sympas. Donc ça serait le CPC. La console, le salon, ben, ça, de toute façon, ça sera Super Nintendo, parce que ça restera quand même pour moi la console.
Ok.
Et la console portable, bien que j'ai un attachement pour la Neo Geo Pocket, qui est une excellente machine, ça serait quand même la Game Boy, parce que d'une part, ça fut ma première console.
Okay.
Et secondo, comme elle a énormément de jeux dessus, ça permet une plus grande variété.
D'accord. Et pour Julien?
Voilà. L'Amstrad CPC, je l'ai eu aussi, fut un temps. Mais c'est vrai que l'Atari ST, c'est la machine vraiment micro-ordinateur que j'ai beaucoup plus joué. Donc voilà, ça sera le ST, c'est sans aucun doute.
Yes.
Ensuite, pour la console de salon, celle que j'ai joué le plus, c'est sûr et certain, c'est la Super Nintendo. Mais celle où je me suis vraiment le plus éclaté, c'est la Neo Geo.
D'accord, super.
Parce que je l'avais à l'époque, donc on a joué beaucoup dessus finalement, plus que n'importe quelle machine, si on regarde bien, parce que dans le temps, elle a duré le plus longtemps, donc c'est ce qui me laisse le plus de souvenirs. Donc ça sera la Neo Geo, et en console portable, ça sera définitivement la Game Gear.
D'accord. Question de H. Williams. Salut les gars. Mes questions sont: quelles sont votre machine préférée, votre jeu préféré, d'où vient le choix d'avoir créé cette chaîne? Aïe, 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 c'est une longue question, ça, mais en gros, c'est en regardant un peu ce qui se faisait à l'époque sur le net, et puis c'était en 2007, il n'y avait pas beaucoup d'émissions. Mais en regardant un peu ce que faisaient les Anglais, et puis en regardant l'émission aussi qui nous a pas mal influencé, c'était Mémoire vive sur Game One. Ben, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas présenter aussi des jeux comme ça, rétro, qui nous ont marqués. Donc voilà, en gros, vite fait, comment est venue l'idée. Autre question de Williams. Sinon, j'aime bien vos émissions et surtout les émissions spéciales montrant l'impact du jeu vidéo sur les médias et inversement. Eh bien, merci H. William de ton commentaire.
Je ne sais pas si vous voulez... Non, je ne vois pas trop les émissions auxquelles il parle, parce que montrant l'impact du jeu vidéo sur les médias, je n'ai pas souvenir qu'on ait fait ça.
Non, je suppose qu'il parle, tu sais, l'émission que Robin avait faite sur les jeux vidéo dans la télévision.
Ah, dans les séries, ouais.
Ça doit être ça qu'il doit parler.
C'est exactement.
Effectivement.
Alors, autre question de Milice Bruce. À quand
Bruce
un rétro...
Milice.
C'est ça, ouais, Bruce.
Bah, Bruce Milice,
oui. Ouais, c'est un jeu de mots, oui. D'accord. À quand un rétrovision spécial, meilleure musique de jeu d'arcade, Shinobi niveau 1, Outrun, Magical Sound Shower, les compositeurs, etc.
C'est trop subjectif pour être abordé.
Exactement.
Bah, le problème, oui, c'est trop subjectif. Les meilleures musiques, ça c'est selon le goût de chacun. Hein. Ouais. Ça c'est typiquement le genre d'émission à faire. On se retrouve avec des commentaires en disant, moi je suis pas d'accord avec tel avec vos choix.
Vous avez oublié celle-là.
Voilà, exactement.
Ouais, d'accord. C'est certain. Ouais.
Donc, ok. Peut dire faire une émission sur les musiques les plus marquantes, à la limite.
Mais c'est vrai.
Les meilleures.
D'accord. Ouais. Autre question de H. William, ce serait bien de faire une émission consacrée au PCB XXX in one, les pires, les meilleurs.
Ça c'est donc pareil.
Les PCB de compilation, donc XXX in one.
C'est ça.
Oui, bah c'est l'idée n'est pas mauvaise par elle-même, sauf qu'il y a deux gros problèmes. C'est que la première, nous n'avons pas ce genre de PCB.
Voilà.
Pour donner une idée, c'est des PCB qui valent en moyenne une centaine d'euros. Donc, pour faire une comparaison, il en faudrait quand même plusieurs. Donc, là, le budget juste pour une vidéo. Mmh. Et secondo, ce sont des jeux qui ont des bugs soit sur le système lui-même, soit sur certains jeux. Donc, s'il faut tester chaque jeu pour voir s'il y a un problème pour comparer avec les autres, ça serait un travail assez phénoménal. Donc, ouais. Comparer une ou deux cartes, je veux bien, mais dans ce cas-là, s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous les prêter, oui.
D'accord.
Mais là, tel quel.
Autre question, est-il possible de mettre des commentaires audio sur les premières saisons ? Oui, c'est possible, mais non, ça ne se fera pas parce que, tout simplement, je n'ai pas le temps. Voilà. Et enfin, ce serait super sympa de voir vos têtes. Alors, en ce qui me concerne, oui, ce serait bien, mais moi, on la voit déjà dans le Pix and Love et puis dans l'émission spéciale anniversaire pour les 5 ans. Maintenant, pour les têtes de Monsieur B et de Julien F,
ça c'était... Même pas au rêve.
Non, c'est pas ça, c'est que je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que ça apporterait à l'émission de voir nos têtes?
Ouais, c'est non, vrai, c'est bien de garder ce petit côté un peu secret, parce que bon, les gens, une fois ils auraient vu la tête, ok, bon.
Voilà, on est très Daft Punk.
Ah oui, c'est vrai, ouais, d'accord.
Ouais, nous, sauf que c'est avec des sacs poubelles.
Voilà.
Ok, autre question.
Non, mais bon, on reste les personnes de l'ombre, on va dire.
Voilà, c'est ça, comme l'émission, c'est
des ombres.
Comme à l'image de l'émission, nous sommes underground, yeah.
Exactement.
Autre question de... Allez, j'adore les pseudos de certaines personnes là sur YouTube, c'est génial. En roue libre. Alors, à quand une émission sur l'Amiga d'aujourd'hui? La passion et l'univers qui tournent autour, le rétro gaming, les démo makers, le développement actif et enfin l'Amiga NG et clone émulation présent et passé. Ouais, peut-être Julien, as-tu une spéciale Amiga en préparation, l'Amiga d'aujourd'hui?
Bah écoute, l'Amiga, c'est vraiment, je l'ai pris en cours, je connaissais à l'époque forcément parce que j'avais le ST, mais c'est pas une machine qui m'a, bon, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas une machine qui m'intéresse, je suis désolé, donc franchement
moi,
je laisse la main.
Ok, moi ce qui me concerne, c'est sûr que j'ai eu l'Amiga en 92, juste après avoir revendu mon Atari ST. Mais par contre,
on va faire lâcher là.
M'étonne.
Non mais je voulais voir là comme ça là. J'étais vraiment fan de Shadow of the Beast puis j'étais un peu frustré de pas le voir le 2 et le 3 sur ST. je regrette pas. Ça m'a permis de connaître la démo scène et puis non, je regrette pas mon choix. J'ai toujours
du côté obscur.
J'ai toujours adoré l'Atari ST aussi. J'aurais dû garder les j'aurais aimé ça avoir les deux en même temps, mais bon, j'avais pas trop les moyens. Mais sinon, pour revenir à la question, peut-être, je sais pas encore.
À moins d'avoir une aide extérieure, hein, des personnes qui soient vraiment dans ce.
C'est ça. Peut-être demander à Titan, à Amiga Museum, avoir de l'aide extérieure de quelqu'un. Oui, mais sinon, moi tout seul, j'aurais vraiment du mal, hein, ce qui me concerne. Mais pourquoi pas, on va y penser. Ensuite, autre question de Frankie Another Face. Êtes-vous conscient que depuis 2007, chaque fois que j'entends l'expression « de toute beauté », je l'associe immanquablement à la voix de Robin, et je ne dois pas être le seul.
Oui, ça a laissé des séquelles.
Oui, c'est clair.
Oui, alors, effectivement, alors d'où ça vient? Bah, ça vient de... Je pense que la première fois que j'ai entendu ça, c'était sur Game One. Je crois que c'était Alex Pilote qui disait ça de toute beauté, puis ça, j'ai trouvé ça sympa, puis je l'ai repris un petit peu. Et j'ai quand même essayé de lever un peu la pédale là-dessus, de pas trop en mettre, parce que comme toutes les bonnes choses, il faut pas non plus en abuser. Donc c'est sûr que je le dis un petit peu moins, mais peut-être que je vais le dire, je vais en lâcher un de temps en temps, par-ci par-là. Voilà, donc c'est ça ma réponse, je l'utilise avec parcimonie. Alors, dernière question avant une nouvelle pause musicale de Alain Le Guirec. Êtes-vous conscient du bien que vous nous faites ?
Bah oui. Bah voilà, c'est en fonction des commentaires. Mais bon, d'une manière générale, c'est vrai que les commentaires sont assez bons, donc bon.
Oui, c'est intéressant, les commentaires, on en tient compte. Mais c'est un petit peu comme une cour de récréation. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire qu'on balance l'émission sur YouTube ou Dailymotion. Comme si on en parlait à la récré, puis c'est comme si les copains venaient se rejoindre à nous, nous disent « Ah, ça, on a aimé, ça, c'était bien. Ah ouais, ça, je me souviens de ça, à cette époque, de partager un peu nos souvenirs. » Moi, j'aime ça, puis je pense que pour vous aussi, c'est assez encourageant de voir des bons commentaires.
Ah oui, c'est clair.
Absolument.
Et certains sont constructifs, donc c'est encore mieux. Voilà, deuxième petite pause musicale, on continue toujours sur Amiga. Ryan Ouwehand et Charles Dinen, il s'agit de la musique de Unreal, c'est remixé par Enjoy of TSW et c'est le Turbo Galeazzi Cut. Voilà, c'était donc la musique de Unreal, remixée par Enjoy of TSW. On continue les questions avec JB Le Mourou. Je suppose que certains d'entre vous sont aussi collectionneurs de rétro gaming. Quel est le plus beau trésor de chacun ?
C'est pas une question évidente, hein. Le plus beau trésor... Bah, j'hésite entre la Super Famicom Box, la Panasonic FZ35S ou la Super Icon. J'ai pas de choix, arrêté.
D'accord.
Les machines, forcément, les plus rares, les plus difficiles à acquérir, sont forcément celles qu'on préfère, mais j'ai pas vraiment le trésor.
Un trésor, en plus, c'est vague, c'est-à-dire un trésor. Par rapport à nous, par rapport au monde du rétro gaming, par rapport à quoi?
Je pense que c'est personnel, hein, par rapport à notre collection.
Si c'est personnel, je veux dire, c'est même pas des fois une question de prix. Moi, j'étais super content d'avoir retrouvé la GameMat. C'est une console de merde. C'est clair. Ouais. Mais de l'avoir retrouvé de vraiment comme je l'avais connu à l'époque, parce que c'était vraiment très furtif, puisque c'était pas moi qui avais ça, la machine, c'était à mon cousin, tout ça. Donc bref, je l'ai pas connu longtemps, la machine. Et de l'avoir remis la main dessus, d'avoir remis déjà un nom dessus, parce que je me rappelais plus, eh ben ça m'a fait super plaisir. Alors que j'ai des machines qui valent je sais pas combien maintenant, parce que voilà, ça s'est envolé. Mais ça, je m'en fous un peu. Ça, par contre, ça vaut pas cher. C'est de la merde, mais ça m'a fait plaisir de le retrouver.
Non, mais c'est pas forcément une question de prix, mais là, voilà. Sur les trois que j'ai cités, c'est des machines qui sont pas évidentes à avoir.
C'est vrai. Ouais, mais après.
Pas forcément, question de prix, c'est forcément pour réussir à les choper. Donc.
Même sans ça, regarde, la Gamma, tu peux la choper facilement. Tu lâches 100 euros, tu l'as sur eBay, c'est pas un problème. Mais c'est le fait déjà d'avoir mis un nom dessus, parce qu'à l'époque, quand je l'ai récupéré, tout le monde ne s'y intéressait pas à la Gamma. Et fallait s'en rappeler que ça s'appelait comme ça, quoi.
Oui, ben là, oui, toi tu privilégies le côté sentimental, si je peux
puis
dire.
Le fait d'avoir cherché, tu vois, par exemple, d'avoir cherché le nom, d'avoir cherché d'où ça venait, comment ça s'appelait à l'époque, dans quel magasin ça. Tu vois, c'est d'avoir fouillé, et puis d'avoir après trouvé le nom pour la récupérer ensuite. Pour moi, tu vois, ça c'était intéressant. C'est vrai que maintenant, après, tu vas sur eBay, tu tapes le nom de ta console, tu l'achètes, bon, bah, il n'y a pas trop grand intérêt, tu vois.
Ouais, ouais.
Tu savais le nom qu'elle avait, t'en as rien à foutre, tu vois, t'as tapé le nom dans la barre de recherche, t'as lâché les talbins, terminé. Mais là, d'avoir cherché le nom, parce que tu ne connais pas le nom, tu t'en rappelles pas, tu sais même pas la marque que ça. Mmh. Tu sais que ça a été vendu au Leclerc dans les années 92, et puis c'est tout.
Voilà, exact.
Donc ça, c'était pas mal.
D'accord. Autre question de Yves Grandjean. Ce serait intéressant de vous connaître un peu mieux. Quel est votre parcours, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a poussé à créer une émission afin de partager cette passion pour des jeux vidéo parfois peu connus? En tout cas, super émission, les gars, je vous suis assidûment, avec plaisir à chaque fois.
Bon, alors merci, déjà.
Ah oui. C'est gentil.
Merci Yves. Alors donc, pour répondre à sa question.
Nous, on vient du monde de l'industrie graphique, pour être exact.
D'accord.
Donc après le parcours, si c'est le parcours professionnel,
Pense que c'est le parcours en tant que joueur qui l'intéresse, parce que bon, notre CV, il s'en fout un peu.
Non, mais pour dire pourquoi on est arrivé là-bas, parce que bon, moi à l'origine, si je préfère, j'ai été dans la section de là-dedans professionnellement, parce que justement à la base j'avais mon Atari ST et qu'il y avait des trucs en PAO qui m'intéressaient, tu vois, donc c'est de là que ça vient un petit peu en fait.
D'accord.
Mais sinon, le parcours de jeu, bah, je crois que c'est comme tout le monde. Hein. On est né dans les années 80. On a commencé avec des NES ou des conneries comme ça, Atari. Après Amstrad pour les micros, Commodore 64 pour les plus chanceux, Atari ST. Et puis voilà quoi.
Voilà, oui, en tant que joueur. Après, pour l'émission, bon, ça, c'est toi, Robin, qui l'a expliqué tout à l'heure.
Ouais.
Ce qui t'a poussé à créer l'émission. Après, ce qui nous pousse à partager la passion, les jeux vidéo parfois peu connus. C'est d'abord parce que bon, quand on regarde toutes les émissions qu'il y a en général, que ce soit les émissions professionnelles, que ce soit sur Game One ou No Life, ou sur les chaînes amateurs sur YouTube ou Dailymotion, c'est toujours, enfin moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, les gens ont toujours tendance à vouloir parler de jeux qui sont ultra connus.
C'est vrai, c'est vrai.
Que peut-on dire de plus
ça?
Oui, oui, il y a ça, mais bon, après, qu'on fasse une émission sur un Street Fighter, un Final Fantasy, qu'est-ce qu'on ne sait pas déjà sur ces jeux-là? Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à vouloir connaître des jeux qui sortent un peu des sentiers battus, des jeux un peu originaux, et j'aime bien justement faire connaître ces jeux-là.
D'accord.
Donc moi, c'est ce qui me pousse à parler de ces jeux-là, de faire découvrir des jeux qui, malheureusement, sont passés assez souvent inaperçus, qui méritent quand même d'être connus. Ou pas.
Et
ça.
Parfois rétablir aussi certaines vérités. Hein,
oui, il y a beaucoup le sac. On a remarqué aussi, il y a beaucoup de coquilles dans les émissions. Les gens racontent parfois un peu n'importe quoi. Et,
oui. Vraiment des coquilles énormes quoi. C'est. Je ne vais pas citer la Mega Drive sortie en 1999. Hein, pas cité par un grand professionnel, journaliste, dit-il aussi professeur d'histoire dans le jeu vidéo. Mais alors.
Ouais. Avec son bouquin, son expérience personnelle, oui.
Voilà, tu vois ce que je veux dire. Dans ce cas-là, tu fermes ta gueule et puis tu vas d'abord te renseigner avant de parler. Parce que quand on fait une émission, on est capable de réécouter au moins ce qu'on a dit et de s'apercevoir qu'il y a des erreurs. Pareil, après, il y en a qui parlent de jeux vidéo rien que pour les casser. Bon, je regarde pas son émission personnelle, hein, je vise personne. Mais quand on m'a dit que j'avais rétabli une certaine vérité avec Addams Family 2, je m'en étais même pas aperçu parce que je savais même pas que... Il y avait quelqu'un qui avait essayé de descendre le jeu, alors que c'est vrai que le jeu est dur, mais faut arrêter quoi. Les jeux, ils étaient peut-être durs, mais au moins comme ça, t'en avais pour ton argent. Donc faut arrêter quoi. Je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre dans le monde professionnel. C'est soit les mecs qui balancent des conneries énormes, Mais ça passe parce que ce sont des gens connus. Donc, oui. Et le problème, c'est qu'après, ça reste dans la masse. Par exemple, tu vois, le terme Beats and Balls qui n'existe pas, parce que c'est un terme qui a été conçu chez Console Plus. Je ne citerai pas encore le nom parce que c'est rigolo. Et alors que ça n'existe pas. Dans ce cas-là, on va appeler les shoot'em up les shoot them all.
Mm-hmm. Il suffit de regarder un peu sur les sites anglophones pour regarder les jeux comme Final Fight ou compagnie pour voir qu'ils sont catégorisés comme Beats and Balls.
Bien sûr.
Chercher sur un site anglophone le terme Beats and Balls, ça n'existe pas.
Ah non,
pourtant, les gens
pas.
L'emploient couramment sur des sites très connus ou même dans les émissions comme ça. Et c'est un peu l'intérêt qu'on a à participer à ton émission, c'est le fait d'un peu de casser ces mythes-là et de remettre les pendules à l'heure.
Voilà, d'accord. Exactement.
D'accord. Ok, sinon nous avons une autre question de Frankie Unoverface. Comptez-vous apporter des changements majeurs à l'émission? Je pense personnellement que tout ce qui fait le charme de cette émission est justement son sérieux et son ambiance particulière. Par pitié, ne succombez pas à la tentation de lui donner un ton humoristique pour augmenter son audience. Cela ne ferait que la faire ressembler aux dizaines d'autres disponibles sur le net. Alors là...
Bon. Je tiens quand même à le rassurer, il n'y aura pas de vulgarité, pas de blague de Toto, c'est promis. Non. On va rester quand même sur la même ligne directrice, donc les émissions resteront sérieuses. Bon,
oui, professionnelles.
Une petite connerie de temps en temps, comme j'aime bien les incruster.
Oui, ça c'est sympa. Mais
ça reste des choses assez discrètes. Hein.
Voilà, c'est tout. Faut pas... On cite personne, hein, mais on voit de qui veut parler, donc non, nous on ne mange pas de ce pain-là, nous.
Non, de toute façon, ça a toujours été... Nous, c'est l'information... sur les dossiers ou faire connaître des jeux, c'est pas non plus pour faire de l'humoristique. Ça, le problème, c'est que les gens ont un peu un mix de tendance à faire un amalgame de ces trucs là. Faut qu'ils se positionnent. Soit tu fais une émission humoristique et les gens viendront voir ça uniquement parce que c'est humoristique, soit tu parles de jeux vidéo uniquement parce que les gens s'intéressent d'écouter ou de regarder des émissions sur ce sujet.
De faire un
mélanger
un
les deux comme ça, tu sais pas réellement si les gens regardent ces émissions là. Pour les potentielles informations qu'ils apprendront ou justement pour les grosses blagues qu'on verra dedans. Mmh. Nous, on s'est bien positionné. Nous, on veut vraiment parler des jeux ou des machines. Mmh. Point barre.
C'est ça. Et bon, comptez-vous porter des changements majeurs à l'émission? Non. Des changements mineurs, oui, peut-être, oui, c'est sûr, on en a déjà parlé tout à l'heure là avec les cracks trop, puis je vais pas tout répéter, mais bon, oui, il y aura quelques petits changements, oui, à chaque saison, c'est
des ajustements.
C'est le sens de l'évolution en fait.
Voilà, c'est ça. Ben, nous approchons déjà à la fin de ce podcast. La dernière question de I Hate Xbox Forever Jax. Tout est dit dans
très
le
partisan ça.
Voilà. J'en ai une, moi. Comment vous faites à seulement deux personnes, de ce que j'ai compris, alors non, en fait, nous ne sommes pas deux, mais trois, pour sortir parfois jusqu'à deux émissions de 20 minutes tous les mois, jouer, capturer, écrire, monter, mettre en ligne, doit prendre un temps monstre, non? Oui, ça prend pas mal de temps, alors c'est pour ça que mais le fait d'être à trois, on répartit le travail. Donc, alors maintenant, nous ne sommes plus à deux émissions de 20 minutes tous les mois, nous sommes à une émission par mois, en alternance avec des émissions spéciales ou des hors-séries. Donc on va pas répéter tout ce qu'on a dit avant, mais on alterne le travail avec Julien et Monsieur B qui font essentiellement les écritures, qui font aussi le montage. On répartit tout ça, et puis mais même en répartissant, des fois c'est pas toujours évident selon les périodes de pouvoir assurer le rythme d'un épisode par mois. Mais quand même, c'est quand même faisable. On arrive toujours à se démerder pour. Si on voit qu'on a moins de temps, on passe sur certaines chroniques. On a des chroniques qui sont déjà prêtes qu'on peut insérer. Donc, on arrive toujours à se démerder, à jouer avec ce qu'on a fait. C'est ça, on s'adapte pour pouvoir sortir une émission par mois.
Oui, bon, même si on garde toujours un rythme à peu près régulier, donc on s'est toujours fixé pour moi et pour Julien d'avoir au moins deux chroniques de jeu chacun avec le dossier. Après, ça dépend en fonction du temps de chacun. Donc, il y en a un qui pourra en faire trois, l'autre un seul, ou faire une chronique sur autre chose. Mmh. Mais de toute façon, il ne faut pas en plus dire que ça prend un temps énorme, parce que généralement, comme on disait tout à l'heure, les jeux, nous les connaissons. Mmh. Donc, écrire le texte par lui-même, ça va tout seul. Hein. C'est l'ordre de quoi, en étant large, 10 minutes, un quart d'heure.
Okay. Ouais.
Donc, le temps que Robin fasse la voix, on capture les jeux, c'est pareil, comme on les connaît. C'est assez rapide, d'autant que bon, On n'aurait pas à le dire, mais il nous arrive assez souvent de tricher pour aller plus vite.
D'accord.
Donc, mais de, histoire de au moins capturer les éléments essentiels des passages de jeu qui correspondent bien au texte. Après, une fois qu'on a la vidéo et le son, faire un montage, que ce soit moi ou Julien, en première, on commence à bien le connaître. Donc, c'est pareil. Hein. Pour ma part, je pense que pour un jeu, c'est une heure grand maximum. Donc, ça, sur un mois, c'est pas non plus extraordinaire.
D'accord. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Puis après, moi, personnellement, je fais plein de tests d'avance de jeux que je n'ai pas forcément besoin de rejouer pour décrire au maximum. Ça me laisse des petites marges au cas où, par exemple, si je suis un petit peu court, j'ai des tests d'avance, quoi.
Ouais, c'est pareil. Bon, quand on a un peu de temps, quand on est dans l'inspiration, hop, on écrit vite fait un texte. Voilà. Et on a toujours une réserve de jeux qui ne sont pas planifiés, si je peux dire.
Voilà, c'est très modulaire. On fait comme on le sent. De toute façon, on n'a pas de patron derrière, une patron de chaîne de télé qui va nous dire « Bon, il faut que vous ayez fait ça à telle date, avant telle date, et puis blablabla, blablabla. » Ouais, on est
encore libre. Le luxe d'être assez libre. C'est ça.
On fait ce qu'on veut, ça c'est le pied, franchement. On n'a peut-être pas beaucoup de gens qui regardent, mais au moins c'est ça qui fait le charme de Rétrovision. C'est que c'est une émission faite avec le cœur, avec l'émotion, et puis, bah oui, on n'est pas des millions à regarder, mais c'est pas grave, on est entre nous, on se fait plaisir, on vous fait plaisir, puis on aime ça, et puis voilà, quoi, c'est une émission à l'ancienne, comme dans les années 80, où on se prenait pas trop la tête pour la faire, et puis on se souciait pas trop de l'impact du public, mais c'est sûr, bon, voilà, c'est d'avoir un bon retour aussi, comme ça, ça nous fait plaisir. Et puis on va continuer dans cette lancée parce qu'on aime ça et puis voilà, c'est un petit peu le mot de la fin, j'ai envie de dire.
Ouais, et puis il y a pas mal de commentaires qui regrettent un peu qu'on ait pas énormément de vues. C'est vrai que c'est regrettable rapport au travail que nous fournissons là-dessus. J'aurais tendance à dire que ces personnes-là n'hésitent pas à en parler autour d'eux.
C'est ça.
Parce qu'on dit c'est le meilleur, c'est le bouche à oreille, c'est quand même la meilleure publicité. Donc c'est si clair. Ces personnes-là font partie de forums ou de groupes d'associations de rétrogrammeurs qui n'hésitent pas à en parler.
Voilà. Et juste aussi avant de finir, peut-être des questions que peut-être que certains se posent ou ne se posent pas, mais j'ai envie de le dire quand même. La Rétrovision ne génère aucun profit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune publicité. J'ai déjà reçu des demandes de partenariat. Je dirais pas les noms, mais j'ai toujours refusé. J'avais pas envie de mettre de publicité. Je pense que pour vous c'est pareil, même si on en a pas trop parlé. J'avais pas envie de mettre de publicité ou de trucs gênants ou d'avoir de contraintes de qui que ce soit. Je voulais vraiment qu'on reste indépendant. Je pense que on a tous un métier, on gagne notre vie avec. Je veux pas faire l'émission pour gagner de l'argent, de toute façon, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, Rétrovision ne génère aucun profit. Et puis, j'ai aussi entendu dire que nous allons mettre les émissions maintenant le 15 du mois.
Oui, bon, ça, on en a parlé la dernière fois, parce que ça permettrait d'avoir deux avantages. Le premier, c'est de bien laisser un laps de temps entre les émissions classiques et certaines émissions spéciales. Les émissions que nous avons tous les ans, souvent liés au calendrier comme Halloween, comme Noël, qui sont généralement des fêtes qui sont fêtées à la fin du mois.
Voilà.
Donc là, au rythme de poster les vidéos tous les premiers du mois, ça aurait fait un peu doublon. Et puis, ça nous permet, pour la pause estivale, de poster la dernière vidéo de la saison le 15 juin pour reprendre le 15 septembre, ce qui nous permettrait quand même d'avoir un trimestre pour se reposer, pour préparer déjà la saison suivante.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que le prochain Rétrovision est prévu pour le 15 septembre 2014 ?
C'est toi qui décides, hein, c'est toi le proprio.
Ah ouais, non, mais moi ça me va, moi le 15. Est-ce que ça va à tout le monde ? Oui ?
Oui.
Est-ce que c'est bon ? Alors, je vote à l'unanimité la reprise des émissions le 15, à partir du 15 septembre, donc tous les 15 du mois. Voilà.
Voilà.
C'est fait,
comme
en direct.
Il y aura déjà le spécial Halloween qui sera le 31 octobre, donc forcément le 1er novembre française, le temps que tu la mettes en ligne. Pareil pour Noël, comme ça, en fin de mois, comme ça, on aura un intervalle régulier, au moins 2 semaines minimum entre chaque émission.
D'accord, super. Et bien voilà, c'est ce qui termine ce podcast un petit peu plus long que d'habitude, mais on a répondu à toutes vos questions. Nous n'avons oublié personne. On n'a pas reçu non plus des milliers de questions, mais bon, on en a reçu quand même quelques-unes. On remercie tous ceux et toutes celles S'il y en a, je ne sais pas, on ne sait jamais. Toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé ces questions, ça nous a fait plaisir. Merci à vous aussi d'avoir participé. Merci à Julien et merci à Monsieur B d'avoir participé à ce podcast. C'est normal, c'est l'équipe Rétrovision. Donc toute l'équipe vous souhaite une très belle après-midi ou une belle journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on termine en beauté avec le magnifique thème de Years to Eternal. C'est composé par Koshiro Yuzo. Ça s'appelle Still Time. On finit avec ça. Et on vous dit donc à très très bientôt. Et merci d'avoir envoyé vos questions. À très bientôt sur Rétrovision. Salut à vous!